Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Via Angers pour cette nouvelle interview que nous vous proposons dans le cadre des élections municipales à Angers, programmées, vous le savez, les 15 et 22 mars prochains. C'est cette fois-ci Céline L'Huillier qui est notre invitée. Bonjour, bienvenue à vous.
Bonjour.
Vous conduisez la liste Lutte Ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Alors je voudrais d'abord qu'on dise quelques mots de celles et ceux qui vous accompagnent et qui sont avec vous sur cette liste. Je suppose qu'il y a beaucoup de représentants du monde du travail, et même quasiment uniquement des représentants du monde du travail.
Oui, c'est ça. Donc si vous voulez, nous, à l'image du nom qu'on a donné à notre liste, hein, faire entendre le camp des travailleurs, bon, bah, notre liste elle est composée principalement de travailleuses, de travailleurs du public, du privé, des cheminots, des aides-soignants, des enseignants. Tous, en fait, hein, on peut dire, ont en commun de connaître la vie et les problèmes du monde du travail, des classes populaires, à savoir les licenciements, la précarité, les bas salaires, les fins de mois difficiles. Donc, c'est ce qu'on peut quand même retenir, c'est qu'effectivement, sur nos listes, eh ben, il n'y a pas de notables et il n'y a pas non plus de professionnels de la politique.
Oui, parce que c'est vrai que quand on regarde la composition de votre liste, alors il y a des ouvriers, il y a des enseignants.
C'est le monde du travail.
Le monde du travail dans sa diversité.
Exactement.
Il y a environ, je crois, 200 ou 270 listes estampillées lutte ouvrière un peu partout en France. Vous présentez un scrutin qui est un scrutin local avec des thématiques nationales. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de décalage ou est-ce qu'au contraire, vous revendiquez cette singularité?
En fait, si vous voulez, aujourd'hui, là, quand on regarde, alors qu'on habite Angers, Trélazé, Les Ponts-de-Cé ou n'importe où en France, les problèmes des classes populaires du monde du travail, ils sont les mêmes partout. C'est-à-dire, c'est les problèmes du chômage, des licenciements, comme j'ai dit tout à l'heure, des bas salaires. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une poignée là, de multimilliardaires qui décident de tout. Hein, c'est eux, hein, les maîtres de l'économie. Alors, à leur service, il y a forcément le gouvernement. Hein, c'est un gouvernement qui est complètement zélé, qui est au service des riches, des plus riches. Et si on veut aujourd'hui s'en sortir, eh ben, on n'aura pas le choix que de contester le pouvoir là, de ces multimilliardaires, de ces actionnaires qui aggravent un peu plus tout le temps nos conditions de travail, l'exploitation, pour enrichir, pour se faire de plus en plus de profits. Quand même, un exemple qui est marquant, moi je trouve, on voit Bernard Arnault, il se fait 100 millions par jour, c'est-à-dire un SMIC par seconde, même en dormant. Donc, et ben voilà, et ben c'est ces gens-là, aujourd'hui, qui font qu'on est de plus en plus pauvres et qu'on a de plus en plus de difficultés à vivre.
Non. On se souvient qu'en 2014, vous étiez, enfin quand je dis vous, c'est Lutte Ouvrière, bien évidemment, vous étiez déjà présent à ce scrutin des municipales à Angers. À l'époque, c'est Marie-Josée Falligan,
exactement,
qui conduisait la liste. Vous aviez obtenu 0,93% des suffrages avec environ un petit peu moins de 500 voix exprimées en votre faveur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que le contexte a évolué, notamment parce qu'il y a eu, depuis un peu plus d'un an, les Gilets jaunes, parce qu'il y a eu et il y a toujours cette mobilisation contre la réforme des retraites. Est-ce que ce qui se passe là, ces deux événements-là, pourraient vous permettre d'avoir une audience supérieure à celle de 2014?
Alors, c'est sûr que nous, on l'espère. Alors, ce qui est marquant quand même, moi, je trouve, c'est qu'effectivement, avec le mouvement des Gilets jaunes, et encore plus même avec le mouvement contre la réforme des retraites, c'est déjà des milliers de travailleurs qui ont relevé la tête. Et ça, c'est déjà un encouragement. Et c'est aussi le sens de notre, finalement, de notre candidature là aux élections. C'est de pouvoir permettre à tous ceux qui n'ont pas envie de se résigner là contre la dictature du grand capital, de pouvoir le faire et d'être un encouragement à continuer la lutte et à continuer de se battre. Mais nous, ce qu'on pense aussi, c'est que le fait qu'il y ait des gens qui aient relevé la tête là, dans le monde du travail, bah, ça montre aussi clairement qu'il y a deux camps dans la société. Voilà, il y a le camp des exploités, notre camp, hein, ceux qui font tourner la société. Et puis en face de nous, eh ben, il y a le gouvernement, hein, qui est au service des grands actionnaires, des grands capitalistes. Alors, à travers ce mouvement, c'est vraiment ça qui s'exprime. Et je pense que quand on dit qu'il faut faire entendre le camp des travailleurs dans ces élections, eh ben, il faut permettre à tous ceux qui vivent de leur salaire, de leur pension ou de leurs allocations, eh ben, de pouvoir non seulement voter pour des gens qui appartiennent à leur camp, hein, pour des travailleuses et des travailleurs, comme nous, comme tous ceux qui sont sur la liste, mais aussi justement de pouvoir faire entendre leur révolte, de pouvoir faire entendre leur colère face à cette guerre de classe là, que nous mènent les capitalistes, et puis de se dire que voilà, on a commencé à relever la tête en se battant contre la réforme des retraites, et ben il faut qu'on continue parce que de toute façon on n'aura pas le choix. Et vous savez, nous on pense que si on avait des élus, alors bien entendu on aimerait bien avoir des élus, et ben on serait justement des points d'appui des combats que doivent mener les travailleuses et les travailleurs au jour le jour, ne serait-ce que pour se battre.
Vous avez anticipé ma question, Céline Lillier. Imaginons que vous ayez deux, trois élus au sein d'une assemblée communale. Qu'est-ce que ça change fondamentalement? Ça veut dire que vous portez la voix des travailleurs au sein d'un conseil municipal?
Alors, non seulement on porte leur voix, mais c'est-à-dire qu'on se bagarrerait, on mènerait des combats à leur côté. On peut prendre l'exemple d'une grande entreprise comme Thyssen. Bon, ben voilà, quand une entreprise comme ça licencie, eh ben, on serait aux côtés des travailleuses et travailleurs de l'entreprise dans le bras de fer engagé contre leur patron, contre les licenciements. On peut imaginer aussi d'être aux côtés de ceux qui veulent se bagarrer contre les expulsions locatives, mais aussi même contre les expulsions de sans-papiers. Voilà, on serait des élus utiles. C'est comme ça qu'on voit les choses. Mais vous savez, quand on est élu tout seul, et notamment à l'échelle d'une municipalité, on ne peut pas faire grand-chose tout seul. Hein, tous ceux qui promettent de faire d'Angers une oasis de bonheur verte et durable dans un océan de misère, tout ça, c'est un leurre. C'est pas vrai. Nous, ce qu'on dit, c'est que si on veut que ça change, il faut que la population, les gens prennent leur sort en main, et nous, on serait un relais, on serait un appui de tout ça. Et juste pour terminer quand même, vous savez, la lutte des classes, elle s'exprime effectivement dans les entreprises, mais la lutte de classe, elle s'exprime aussi tous les jours entre les banquiers et les clients, entre les propriétaires et les locataires, entre toutes les multinationales de l'eau, du gaz et les usagers. Donc la lutte de classe, elle s'exprime tous les jours. Et si on veut sauver notre peau et ne serait-ce que de rendre les coups, eh ben, il va falloir qu'on se bagarre, qu'on se mobilise contre tous ces gens-là.
Quand je vous entends, je me dis que vous avez quand même des points communs avec la liste Angers Citoyenne et Populaire. Quand vous parlez de défense des personnes qui sont en difficulté pour trouver un logement, quand vous parlez de défense des gens qui travaillent dans les entreprises, qui habitent dans les quartiers. Vous n'êtes pas non plus vous un îlot isolé, il y a d'autres gens qui portent ces revendications-là.
Je l'ai déjà dit, hein, si on est plusieurs à dénoncer finalement les mêmes choses, c'est très bien. Par contre, on est les seuls à être, on va dire, sur le terrain de la lutte des classes. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on ne dit pas que si on était élu, on changerait les choses. On serait les meilleurs élus, même des élus d'ailleurs les plus dévoués, tout seuls, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et ça, ce n'est pas vrai. Le sens de notre candidature, on ne dit jamais « votez pour nous ». Et on va changer les choses. Non, on pourra changer les choses que s'il y a une mobilisation des habitants d'un quartier, des travailleurs dans une entreprise. C'est que comme ça qu'on pourra. Et les élus, nous, au sens où on l'entend, on serait des relais ou même des organisateurs des combats à mener. Mais vous savez, même un exemple, quand on voit aujourd'hui la situation de l'hôpital public, alors là on peut prendre l'exemple du CHU d'Angers, eh ben, si on avait des élus, ou même en tant que maire d'une ville comme Angers, eh ben, au lieu d'approuver la politique du gouvernement, les suppressions de lits, de moins en moins de budget pour faire fonctionner les hôpitaux, eh ben, on serait au contact de ceux qui se bagarrent. Au jour le jour, on serait au contact des infirmières, des aides-soignantes qui dénoncent la situation catastrophique. Et on organiserait même peut-être les grèves avec eux. Voilà la différence entre nous, comment est-ce qu'on se situe et comment est-ce qu'on perçoit le fait d'avoir des élus et d'autres listes ou d'autres candidats qui, finalement, font effectivement 150, 200 promesses. Mais et alors, qu'est-ce que ça va changer à la situation des classes populaires?
Je vous pose la question, je connais la réponse, mais je la pose quand même, ma question. Il y a la liste Aimé Angers 2020, conduite par Sylvia Carbara-Tombini. Il y a la liste également conduite par Yves Aurégan, qui compte parmi ses membres des représentants du Parti communiste. Ce sont deux listes qui se revendiquent clairement comme étant à gauche. Pour vous, est-ce que ces listes sont réellement à gauche?
Alors, vous savez, Il y a quand même une liste. Alors effectivement, il y a des militants écologistes, il y a des militants du Parti communiste, il y a aussi du Parti socialiste qui est sur cette liste. Bon, eux, là, ce qu'ils nous font, c'est quand même l'union de la gauche. Alors, l'union de la gauche, on connaît, on a déjà vu ce que c'était. À chaque fois qu'ils ont été au gouvernement, ils ne sont jamais revenus sur des décisions qui étaient à l'encontre des travailleurs. Et ils ont même des fois participé à aggraver encore un peu plus. Donc moi, je ne fais aucune confiance,
aucune illusion,
une liste d'union de la gauche. Par contre, c'est vrai que je fais la différence entre cette liste d'union de la gauche et puis... Bien entendu, moi j'étais très présente dans les grèves contre la réforme des retraites. Et bien sûr, à mes côtés, il y avait des camarades qui sont sur ces listes. Alors effectivement, on peut se retrouver dans certains combats. Mais sur le fond, par contre, j'ai aucune illusion à avoir.
Bon, on arrive quasiment à la... On a dépassé la moitié de cet entretien. Vous vous présentez donc à une élection locale. On a bien compris que vous défendez un certain nombre de thèmes. Est-ce que... Lorsque vous regardez le bilan de Christophe Béchu, puisqu'il est maire sortant, il a donc un bilan à défendre, est-ce qu'il y a des connexions entre ce que vous défendez et ce que vous retrouvez dans le bilan de Christophe Béchu ?
Alors, ce qu'on peut dire, vous savez, moi, le principal reproche que je ferai au maire sortant, c'est qu'il soutient un gouvernement, c'est le gouvernement Macron, qui est un gouvernement qui est au service des riches, qui, par bien des côtés, est un gouvernement qui est vomi dans les classes populaires. On l'a vu à l'époque, enfin, on l'a vu là, pendant les grèves contre la réforme des retraites. Voilà, les gens, ils savent de quel côté est ce gouvernement. Donc, ce que je reproche déjà à M. Béchu, c'est ça. C'est le fait que, localement, finalement, il mène une politique qu'on retrouve au niveau national, qui est une politique pour les riches. Et ça, il l'assume parfaitement. Comme je vous l'ai dit, par exemple, quand il va au conseil d'administration au CHU, toutes les régressions, il les approuve. Après, on est bien conscient qu'une municipalité, elle a très peu de pouvoir. Et quand bien même...
Et qu'elle a un budget contraint.
Avec l'autonomie en plus des municipalités, ça c'est sûr. On est complètement conscient de tout ça. Et si vous voulez, la grande difficulté là-dedans, c'est que si on veut vraiment, justement, changer les choses, si on veut vraiment peser, ça ne sera pas un maire tout seul qui le fera, ça sera en s'appuyant sur des combats collectifs. Et on n'a pas le choix. Alors après, c'est sûr que ce qu'on peut aussi reprocher aux maires sortants, c'est... Alors ça, les municipalités, vous savez... C'est une expression, oui, qu'on peut quand même employer. C'est des vaches à lait, quand même, beaucoup, pour les gros promoteurs, pour les gros patrons, les capitalistes. On a des exemples sur Angers. Dernièrement, il y a un contrat qui a été passé avec Engie. Alors, un contrat de 170 millions. Voilà.
C'est pour la ville intelligente.
C'est-à-dire
Engie fait partie du consortium qui a été retenu.
Exactement, pour permettre, visiblement, à la ville d'Angers... faire des économies. Voilà. Par contre, ils ont essayé de chiffrer les économies qui pourraient être faites. Les économies, elles s'élèvent à peu près à 100 millions. Vous voyez bien qu'il y a quand même un problème quelque part. Il y a un problème de chiffres. C'est-à-dire que le contrat coûte plus cher que les économies qui pourraient être faites. Alors, les municipalités, elles engraissent, elles passent des contrats juteux avec tout un tas de gros groupes. Et ça, il n'y a aucun contrôle qui est fait là-dessus. Et si nous, on avait des élus, d'ailleurs, on essaierait de rendre public ces contrats passés avec ces gros groupes et on le dénoncerait.
Vous estimez qu'il n'y a pas assez de transparence ? Il y a eu un vote à l'agglomération. Alors, vous parlez de 170 millions.
En quoi la population a dit son mot là-dessus ? Parce que la réelle démocratie...
Alors ce sera ma question suivante. La
réelle démocratie, c'est ça. C'est que la population, à l'échelle d'une ville, elle puisse non seulement dire ce qu'elle pense, mais avoir un avis et qu'elle puisse peser. Aujourd'hui, si on allait jusqu'au bout des choses, la réelle démocratie, ça serait pouvoir...
C'est la question que j'allais vous poser. Vous parliez effectivement de ce contrat. Alors, vous parlez de 170 millions. Je crois qu'on est plutôt aux environs de 100 ou 120 millions en fonction
C'est un peu plus.
Chacun a ses chiffres. Sur le principe, C'est ça qui est important. Est-ce que vous estimez que, passé un certain seuil d'investissement, il faudrait, j'allais dire, automatiquement déclencher une forme de référendum, par exemple, pour savoir si la population adhère ou non à ce projet? En sachant que, pour l'instant, on est plutôt dans un dispositif qui est un dispositif consultatif. C'est-à-dire qu'on peut consulter la population, mais c'est-à-dire que c'est toujours le conseil municipal qui tranche, hein, mm-hmm. ou la communauté d'agglomération.
Ben justement, alors non, moi, c'est pas... Moi, je ne suis pas sur les référendums, non. Moi, je pense que la réelle démocratie, déjà, c'est de pouvoir révoquer les élus. Voilà, ça, ce serait déjà une des premières mesures. Voilà, un élu qui se présente, qui ne tient pas ses promesses, il devrait pouvoir être révocable par la population. C'est ça, la réelle démocratie. Mais vous savez, en plus, tout ça, ces histoires de démocratie participative, là aussi, c'est quand même un leurre, quoi, parce que pour moi, la démocratie, c'est quand les ouvriers dans une entreprise, les travailleuses et les travailleurs contrôlent ce qui se passe dans leur entreprise, contrôlent les comptes, tout comme à l'échelle d'une ville, il faudrait que la population puisse mettre son nez un peu dans ce que, justement, dans les affaires de la municipalité et contrôler. C'est ça, la réelle démocratie.
Bon. Il y a un certain nombre de thèmes qui sont des thèmes récurrents dans cette campagne. Il y a notamment, alors il y a un vrai débat là-dessus, et c'est pas lié uniquement à la campagne, c'est un débat qu'on a vu émerger il y a quelques temps déjà, qui concerne la gratuité des transports en commun. Alors on a des gens qui sont contre la gratuité, d'autres qui sont pour une gratuité partielle, d'autres qui sont pour une gratuité totale. Est-ce que ça vous semble une idée pertinente,
cette gratuité ? Moi, je suis bien entendu pour la gratuité des transports, pour le développement des transports publics, à condition que ce soit les grandes entreprises qui financent. Voilà. Alors, après, ce thème, quand même, des transports publics.
Parce que tout ça est lié à la préservation de l'environnement, à la transition.
C'est ce que j'allais dire, justement, c'est lié à la préservation de l'environnement. Mais déjà, si vous voulez, au sein d'Angers, il y avait une partie de la population qui voulait se battre pour la gratuité des services, pour la gratuité des transports publics, bien sûr que nous, voilà, on serait à leur côté et on serait un point d'appui. Donc, le développement des transports gratuits, mais aussi suffisants. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous travaillez au CHU, vous travaillez dans n'importe quelle entreprise qui travaille en 3-8 ou qui travaille de nuit.
Avec des horaires atypiques.
Hein. Et bien, c'est pas possible d'y aller, de prendre les transports publics pour s'y rendre. Et après, moi, je suis pour le développement des transports publics, mais par rapport à préserver l'environnement, j'ai beaucoup de mal avec les discours où on culpabilise un peu, où on nous culpabilise un peu sur le fait qu'on prendrait trop la voiture, qu'on consommerait pas comme il faut, etc. Il y a tout un discours autour de ça qui est pénible. Et si on veut régler ne serait-ce que même les problèmes de l'environnement, de l'écologie, qui sont des problèmes importants, si on s'en prend pas aux vrais responsables, hein, c'est quand même les grands groupes qui polluent le plus, et ben même ça, l'écologie, c'est pas juste d'avoir des arbres en plus, même si c'est agréable, ou d'avoir des jardins publics en plus, c'est pas ça le problème. Regardez même sur Angers, on a quand même un exemple qui est quand même, moi je trouve, révoltant, c'est le site de Thomson, hein, qui est un site quand même qui est complètement pollué. Alors Thomson, ils ont licencié. Ils ont mis plein de familles ouvrières dans la panade. Et en plus de ça, ils laissent un site comme ça, pollué. Et c'est à eux qu'il faudrait demander des comptes. C'est ça, pour moi, les problèmes de l'environnement, de l'écologie, ça passe déjà par aller demander des comptes aux vrais responsables.
Bon, en matière de fiscalité, il y a aussi des débats là-dessus, sur la pression. On augmente les impôts parce qu'on veut rendre certains services à la population. Au contraire, on estime, par exemple, qu'il y a un certain nombre d'infrastructures qui ont été construites durant le dernier mandat. Donc, on peut baisser la pression fiscale. Comment vous positionnez-vous par rapport à ça?
Moi, je ne suis pas du tout pour augmenter ni taxer encore un peu plus les enjeux. Non, moi, je pense que tout ce qu'on peut améliorer... le transport, les services publics, ça doit être financé par les gros groupes. Voilà, moi c'est comme ça que nous, à Lutte Ouvrière, on voit les choses, et que pour y arriver, ça ne passera effectivement que par des combats, quoi. Ça, c'est sûr.
Bon, on va conclure cet entretien avec ça, Céline Huillier. Il y a cette perspective du deuxième tour à Angers, puisque il y a soit un tour, soit deux tours sur une élection. S'il y a un deuxième tour de l'élection à Angers, est-ce que à un moment, vous pouvez envisager de donner des consignes de vote en faveur d'un candidat ou d'un autre candidat. Au contraire, vous estimez que vous avez vos idées, qu'à partir du moment où vous n'êtes plus présent à ce scrutin, ces idées ne sont plus représentées, donc vous appelez à l'abstention.
Alors, moi, ce que j'ai envie de vous répondre, c'est que pour l'instant, c'est le premier tour qui compte. Voilà, on profite de la campagne pour militer, pour discuter.